Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Savez-vous ce qu'est la banqueroute ? Pas la faillite, mais bien la banqueroute. Eh bien, pour un État, cela reviendrait tout simplement à abolir tout ou partie de la dette publique. François Ruffin, journaliste au Monde diplomatique et créateur du journal Fakir, un journal indépendant et alternatif, a co-écrit avec Thomas Morel « Vive la banqueroute, comment la France a réglé ses dettes » de Philippe le Bel au général de Gaulle. Mais ce mot « banqueroute », il a quand même bien tendance à faire peur dans notre société actuelle. Alors monsieur Ruffin, qu'avez-vous voulu exprimer par le titre pour le moins provocateur « Vive la banqueroute » ?
À un moment, je pense que le plus sage, c'est de ne plus payer ses dettes. De toute façon, même dernièrement, le FMI, le Fonds monétaire international, vient de reconnaître que la Grèce aurait mieux fait, il y a 4-5 ans, de ne pas payer ses dettes. Mais nous, on l'étudie à travers l'histoire de France, où on montre un certain nombre de moments, 10 moments historiques en tout cas, où la France fait le choix, à travers ses rois, ses ministres ou ses présidents, de ne pas payer la dette. Alors c'est le cas de Philippe le Bel, c'est le cas de Henri II, c'est le cas de Sully, c'est le cas de Colbert, c'est le cas de Raymond Poincaré, c'est le cas des révolutionnaires en 1789. Il y a un certain nombre de moments dans l'histoire de France où on trouve que le plus simple et la seule solution en vérité, c'est de ne pas payer les dettes. Évidemment, la question, c'est de savoir si aujourd'hui, on se dirige vers, finalement, plutôt que de l'austérité, plutôt que de commencer à tailler dans la sécurité sociale, dans les allocations familiales, dans les assédiques, dans les retraites et tout ça, est-ce que le plus simple, ça serait pas de cesser de verser notre écho tous les ans, et voire quotidiennement auprès des financiers, quoi.
D'accord, je suis bien d'accord avec vous, mais quelles seraient les conséquences si on ne payait pas cette dette-là ?
Les conséquences, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, je veux dire, les gens peut-être ont dans l'idée que si on ne paye pas les dettes à la banque, il y a le système financier économique qui s'écroule. Enfin, il doit certainement y avoir des conséquences.
Alors, la question que vous posez, c'est la question qui s'est posée évidemment dans tous les pays. Quelle sera la conséquence ? Et ça, on peut y répondre avec le ministre de l'économie argentin qui s'appelait Robert Lavagna, qui a pris la décision de ne plus payer ses dettes à l'égard de ses créanciers. Et ce qu'il raconte dans un papier qu'on a publié après une interview avec Robert Lavagna, c'est que simplement, quelques années après, il dit « Les banquiers me détestent, forcément, puisqu'ils n'ont pas payé, mais ce qui ne les a pas empêchés de frapper à notre porte pour nous prêter de l'argent 48 heures exactement après que nous avons terminé la restructuration de notre dette en 2005. Or, j'ai refusé ces autres intéressés en leur répondant que nous ne reviendrons pas sur le marché financier avant 2014, car nous n'en avons plus besoin. » Donc je pense qu'il apporte une réponse, c'est-à-dire que simplement, qu'est-ce qui se passe si on refuse de payer la dette ? Eh bien, non seulement on n'est pas méprisé par les banquiers, mais au contraire, ils ont plutôt tendance à revenir pour qu'on emprunte. Alors là, il dit sous 48 heures. En vérité, quand on regarde les exemples de ce qui s'est passé récemment, ça prend un ou deux ans où on est un peu sorti du circuit financier traditionnel, peut plus aller emprunter auprès des financiers, en gros pendant un ou deux ans, et après on y revient normalement, quoi. Donc c'est pas forcément un cataclysme. En tout cas, je dis pas qu'aujourd'hui la France doit faire défaut sur sa dette, mais le FMI lui-même constate que la Grèce, il y a 4-5 ans, aurait mieux fait de faire défaut plutôt que de faire tous les plans d'austérité qu'ils ont fait, plutôt que d'imposer cette souffrance au peuple. Donc je ne dis pas qu'aujourd'hui on en est là, mais il faut être prêt à ce que demain, peut-être, plutôt que de faire des plans qui imposent des souffrances aux populations et au général aux populations les plus fragiles, eh ben on choisisse de pénaliser les personnes qui sont, enfin en tout cas pour ce qui est des rentiers ou des banquiers, qui ne sont pas forcément dans la souffrance sociale. Sur le terrain de la dette, aujourd'hui, la France, elle emprunte à 1%. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra emprunter autant qu'on voudrait sans conséquence. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui, forcément, de faire défaut. Maintenant, il faut se préparer à la tourmente. Si jamais on devait en arriver à une situation comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Italie, comme la Grèce, comme l'Irlande, qui sont avec un taux de chômage qui explose et avec des taux d'emprunt qui sont nettement plus considérables que la France, et bien à ce moment-là, il faut qu'on ait notre solution clé en main et qu'on n'ait pas peur d'éventuellement faire banqueroute. Donc je ne dis pas que si je devenais ministre de l'économie demain, je le ferais, mais je pense que dans les années à venir, c'est une idée qui doit mûrir parce qu'il y aura la nécessité vraisemblablement de la mettre en œuvre.
Et en fait, si effectivement l'État fait banqueroute, c'est pas l'économie qui s'effondre. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on redoute en fait ? Quelle est cette peur que les gens ont par rapport à ça ?
Ce qui nous est dit, c'est pour ça que je répondais par le ministre de l'économie argentin, c'est que si jamais on fait défaut, on ne pourra plus emprunter. Voilà la grande menace qui pèse, parce que pour le reste, bon, ça peut mettre en péril effectivement un certain nombre d'établissements bancaires et puis tout ça, mais à ce moment-là, on peut, comme dirait Frédéric Lordon, un économiste, les ramasser à la petite cuillère, les renationaliser, les socialiser pour les établissements qui se sont le plus compromis avec ce type d'emprunt, quoi. Mais la grosse crainte qui est généralement fait surgir, c'est qu'on ne pourra plus emprunter. Ce que dit Lavagna, le ministre de l'économie argentin, c'est qu'on peut emprunter dans les 48 heures, et ce qu'on mesure dans l'histoire, c'est qu'en vérité, on peut plutôt emprunter sous une à deux années à nouveau, quoi.
Je veux juste une question bête. On emprunte généralement pour investir dans quoi ? Les investissements majeurs ?
C'est la grande question. C'est qu'aujourd'hui, ça devient un peu technique, là, mais enfin, les taux d'emprunt, ils sont grosso modo déterminés par la Banque Centrale Européenne, qui a eu tendance ces dernières années à baisser de plus en plus ses taux d'emprunt. On sait qu'elle a mis à un moment 2 fois 1 000 milliards d'euros sur les marchés. Toutes les semaines, elle décide de mettre certaines sommes sur les marchés. Et à un moment, elle a mis 2 fois 1 000 milliards d'euros. Mais il n'y a aucun fléchage, ce qu'on appelle un fléchage, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout à quoi servent ces 1 000 milliards d'euros ? Ce qui est quand même assez délirant, parce que quand l'Union européenne confie un peu d'argent à la Grèce, elle va vérifier auprès du ministère, envoyer des hommes en noir pour vérifier que cet argent est bien utilisé pour telle et telle chose et pas pour payer un fonctionnaire de plus, ainsi de suite. Il y a un contrôle aujourd'hui très précis des sommes qui sont versées à la Grèce. En revanche, quand on verse des milliards de milliards sur les marchés financiers à destination des banques, on ne s'interroge pas du tout sur ce que deviennent ces milliards. C'est-à-dire, est-ce qu'ils servent à financer des crédits pour les particuliers pour acheter une maison ? Est-ce que ça sert à financer les entreprises ? Est-ce que ça sert les États à faire des hôpitaux ? Vous voyez, on ne sait pas du tout si ça sert à ça ou si, à l'inverse, ça reconstitue des nouvelles bulles spéculatives. On n'a aucune donnée là-dessus et la Banque Centrale Européenne ne cherche absolument pas à savoir qu'est-ce que ça devient. Ils n'envoient pas des gens chez Lehman Brothers, enfin plus Lehman Brothers, mais chez BNP Paribas, chez AXA, enfin dans les organismes de banque assurance, pour voir un peu à quoi servent les milliards qu'on leur octroie. Et je pense que c'est l'une des réformes à mener, évidemment, c'est ce qu'on appelle le fléchage, c'est de se dire, on envoie un paquet de pognon dans un gros tuyau au sommet, maintenant est-ce qu'il est percé de partout, ou bien est-ce que ça sert bien à financer l'économie, c'est-à-dire en définitive les foyers, l'État, les États et les entreprises.
Vive la banqueroute, un ouvrage signé François Ruffin et Thomas Morel, paru aux éditions Fakir.